SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 25 février 2020. Harvey Weinstein, reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle, sépare les accusations de harcèlement visant le producteur de cinéma, l'un des hommes les plus puissants de Hollywood qu'avait débuté le mouvement MeToo. Harvey Weinstein est désormais placé en détention. Sa peine sera, elle, annoncée le 11 mars. L'apparition de nombreux nouveaux cas de coronavirus fait craindre à l'Organisation mondiale de la santé un risque de pandémie, cette fois-ci mondiale. Et en Australie, alors qu'approche la date anniversaire des attentats de Christchurch, les groupes néo-nazis constitueraient la plus grave menace pour la sécurité nationale, d'après le chef des services de renseignement australiens. Il faisait la pluie et le beau temps à Hollywood, pourtant il est désormais derrière les barreaux. Le producteur américain de cinéma Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle, des crimes pour lesquels il encourt entre 5 et 25 ans de prison. Sa peine sera, elle, prononcée le 11 mars prochain. On fait le point à New York avec Lubna Anaki de RFI sur cette affaire qui a donné naissance au mouvement MeToo.
À l'annonce du verdict, Harvey Weinstein avait l'air sous le choc, surpris. Au terme de 5 jours de délibération, le producteur américain a été reconnu coupable de viol sur l'actrice Jessica Mann, coupable d'agression sexuelle sur l'assistante de production Mimi Alei. En revanche, les circonstances aggravantes de comportement de prédateur n'ont pas été retenues. S'il échappe ainsi à la perpétuité, Harvey Weinstein risque 5 ans de prison minimum, voire 25 ans. Après l'annonce du verdict, l'ancien homme fort d'Hollywood a été sorti de la salle d'audience menotté. Il devrait rester en détention dans une prison-hôpital jusqu'à l'annonce de sa sentence le 11 mars prochain. Ses avocats ont tout de suite fait savoir qu'ils allaient faire appel et demander sa remise en liberté pour raison de santé. Ils dénoncent un procès partial. Le jury a forcément été influencé par tout le battage médiatique autour de cette affaire, a déclaré l'un des avocats d'Harvey Weinstein. De son côté, l'avocate de Mimi Alei, Gloria Allred, a parlé d'un grand jour pour la justice des femmes et des survivantes de ce genre de crime. Ce soir, le collectif MeToo, qui a provoqué la chute d'Harvey Weinstein, salue le début d'une nouvelle ère de justice. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et une nouvelle ère de justice, puisqu'effectivement la condamnation d'Harvey Weinstein a fortement soulagé ses victimes. C'est particulièrement le cas du mannequin italien Ambra Gutierrez, à l'égard de laquelle Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Les faits remontent à 2015. À l'époque, Ambra Gutierrez avait déposé plainte, mais le procureur avait lui décidé de ne pas lancer de poursuite. Elle se félicite aujourd'hui de la condamnation de son agresseur, mais aussi d'être devenue une porte-parole des femmes victimes de harcèlement.
I could say that right now I'm happy to see that those years that I lost of my life are getting back. Of course, there is a lot of work to do, and I'm here to, you know, being there and speak to people so that situation like this would never happen again. And yeah, this is my mission right now.
Et d'un tribunal à New York, on prend maintenant la direction du tribunal de grande instance à Paris, puisque c'est hier que s'est ouvert le début du procès de François Fillon dans le cadre de l'affaire du Penelope Gate. Rappelez-vous les révélations sur l'emploi présumé fictif de sa femme en tant que collaboratrice parlementaire avaient torpillé la candidature de l'ancien Premier ministre à l'élection présidentielle qui a finalement vu Emmanuel Macron remporter l'élection. Mais le procès de François Fillon n'a finalement pas eu lieu, puisque à l'extérieur du tribunal de grande instance de Paris où se déroulait l'audience, des dizaines d'avocats manifestaient pour protester contre la réforme des retraites. Dans ces conditions, le juge a accepté de renvoyer l'affaire, dont le procès devrait désormais démarrer pour de bon, mercredi prochain. À Paris, les explications de Pierre Olivier pour RFI.
Tout a commencé ce lundi matin devant le tribunal de Paris. Plusieurs dizaines d'avocats bloquent les entrées en signe de leur opposition à la réforme des retraites. Vers midi, leur action touche à sa fin et les époux Fillon se présentent comme prévu à 13h30 dans la salle d'audience. François Fillon, vêtu d'un costume sombre, a le visage fermé. Sa femme Pénélope, elle, porte un ensemble noir, plutôt souriante. Ses cheveux cendrés sont détachés. Le public se masse dans la salle d'audience presque pleine. Très vite, l'avocat de François Fillon, Antonin Lévy, prend la parole et demande que l'audience soit renvoyée par solidarité avec les avocats qui font grève depuis bientôt 2 mois. Après une rapide délibération de quelques minutes seulement, le tribunal se prononce en faveur d'un report du procès à mercredi prochain, date prévue de la deuxième audience. Le couple Fillon, après avoir échangé quelques poignées de main avec plusieurs avocats, quitte la salle d'audience sans adresser la parole à la presse. Pierre Olivier au tribunal de Paris, RFI.
Et plus d'un mois après l'apparition du coronavirus et malgré une légère amélioration dans la région du Hubei, l'épicentre de cette crise, les centaines de nouveaux cas d'infection détectés ces derniers jours en Italie et en Corée du Sud font craindre à l'Organisation mondiale de la santé les risques d'une pandémie d'ampleur mondiale, même si pour l'instant elle assure que ce n'est pas encore le cas. À Genève, on fait le point avec Jérémy Lange, le correspondant de RFI.
La question était devenue trop récurrente ces derniers jours, alors le patron de l'OMS a pris les devants en évoquant lui-même le terme de pandémie. Tedros Ghebreyesus a affirmé que tous les pays devaient se préparer à cette éventualité, mais attention à ne pas aller trop vite, dit-il. Jouer sur les mots, c'est aussi jouer sur les peurs.
Parler de pandémie maintenant ne correspond pas à la réalité et cela créerait de la peur. Ce n'est pas le moment de se concentrer sur les mots. Ça n'empêchera pas une seule personne d'être contaminée ou de mourir du virus. Nous devons nous concentrer sur les mesures d'endiguement du Covid-19 tout en nous préparant à une potentielle pandémie.
Et tout n'est pas complètement noir, dit l'OMS. L'équipe de l'agence chargée d'enquêter sur le terrain en Chine vient de terminer sa mission. Ses conclusions semblent plutôt optimistes. L'épidémie aurait atteint son pic dans l'épicentre de Wuhan, ce qui explique la baisse du nombre de nouveaux malades en Chine. Le principal enseignement, c'est que le Covid-19 peut être endigué. Le chef de la mission de l'OMS en Chine est attendu dans les prochaines heures à Genève. Jérémy Lange, Genève, RFI.
Il y a donc un léger mieux à Wuhan et dans la région du Hubei, comme on vient de l'entendre. Ceci dit, la situation reste très compliquée sur place, puisque dans cette ville de 11 millions d'habitants, les gens restent confinés chez eux. Ils ne peuvent même plus sortir pour faire leurs courses. Et parmi eux, il se trouve encore environ 70 Français, des Français qui, malgré les évacuations assurées par le gouvernement, ont fait le choix de rester sur place. C'est par exemple le cas de Frédéric Domecq qui explique son quotidien et celui de sa famille à Eike Schmidt de RFI.
Je suis venu ici en 2012 avec ma femme et ma fille qui avait à l'époque 1 an et je suis aussi venu avec ma mère qui a maintenant 81 ans. Toute ma famille est ici et ma femme est d'origine chinoise de Wuhan. Donc lui, ça fait 7 ans qu'on habite ici, on n'a pas de raison de repartir en France. Et depuis quelques jours, là ça doit faire 3-4 jours, maintenant le ravitaillement, on ne peut plus sortir non plus pour se ravitailler dans les supermarchés extérieurs. On ne peut se ravitailler qu'en faisant des commandes groupées, en fait, on passe des commandes de groupe. En fait, alors ça peut être de la boulangerie, ça peut être de la viande, des légumes. Et après, c'est livré à l'entrée de la résidence. Chacun va chercher son colis. C'est vite saturé pour la boulangerie. Par exemple, il faut passer la commande, par exemple, le soir, à 22h le soir. Et le nombre de lots, en fait, est limité. En fait. Alors, c'est juste ça. On a la chance de passer dans la commande, c'est bon. Mais autrement, il faut attendre la prochaine commande. Normalement, c'est tous les 3 jours. Tous les magasins, tous les restaurants, tout est fermé maintenant. Pour les enfants, j'ai une fille, là, maintenant, qui a 8 ans. C'est vrai qu'il faut l'occuper, même ma femme qui est professeure de français. Moi aussi, je suis professeur de français. Là, elle donne des cours par Internet, en fait, en utilisant Internet. Mais c'est vrai que les journées sont longues.
Les groupes néo-nazis représenteraient la plus sérieuse menace pour la sécurité nationale en Australie. C'est Mike Burgess, le directeur des services de renseignement australiens, qui l'affirme dans l'une de ses très rares prises de parole en public. À moins de 3 semaines du premier anniversaire des attentats de Christchurch, au cours desquels 51 fidèles musulmans ont été tués par un terroriste australien d'extrême droite, Mike Burgess estime qu'un attentat sur le sol australien reste probable, alors que le nombre de groupuscules d'extrême droite ne cesse d'augmenter.
In suburbs around Australia, small cells meet regularly, salute Nazi flags, inspect weapons, train in combat and share their hateful ideology. And sadly, these groups are more organized and security conscious than they were in previous years.
Voilà, et pour changer totalement de sujet, une bonne nouvelle pour l'immense majorité de nos auditeurs et pour leurs enfants, pour qui l'anglais n'est pour la plupart pas la langue maternelle. Eh bien, les derniers résultats du National Assessment Program, qui teste les aptitudes des élèves d'école primaire en Australie, confirment que ceux qui parlent une autre langue que l'anglais à la maison obtiennent de meilleures notes. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les mathématiques et l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Mais pour David de Carvalho, le directeur de l'institut qui réalise ces tests auprès des élèves, ces différences de résultats avec les petits Australiens s'expliquent d'abord et avant tout par la plus grande envie de réussir des élèves qui sont nés à l'étranger.
As we know, the L boat community is very diverse. A lot of people come to this country with aspirations for a better life, and they take their education very seriously. And I think that's often reflected in the outcomes that they can achieve.
Et pour finir, jetons un coup d'œil à la météo de ce mardi. Il fait beau et chaud à Sydney avec 28 degrés, 29 degrés à Melbourne où les risques d'averses ne sont pas totalement exclus, quelques nuages dans le ciel de Canberra où il fait 31 degrés, 33 degrés à Perth qui est balayé par des averses, 29 degrés à Adelaide où le temps est ensoleillé, 29 degrés également à Brisbane, et malgré un petit peu d'humidité, et enfin 34 degrés à Darwin malgré la présence de nuages.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.